Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est une maison de mariage au 19e siècle à Lyon. On va regarder de quoi il s'agit. Et je vous ai mis un petit sous-titre qu'on va retrouver un peu plus loin et dire que sans Madame Dess, nous ne nous serions jamais rencontrés. Donc ça, c'est toute une histoire. Alors pourquoi on sait que de tout temps, l'envie de trouver l'âme sœur ça a toujours existé. Aujourd'hui, eh bien, on a des sites internet, des réseaux sociaux, des émissions de télévision spéciales cultivateurs et des journaux d'annonce. Il existe toujours, entre autres, un journal que vous devez connaître, c'est Le Chasseur français, qui donne des annonces, des agences d'annonce matrimoniale. Mais nous allons parler d'une maison de mariage qui, au cours donc, du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, c'était une nouvelle forme de mariage, de présentation des gens, qui voulait se différencier des marieuses, des courtages et des journaux qui ne faisait que des annonces. Donc c'était une petite spécialité qui s'est développée. Alors le seul problème, c'est que ces agences cultivent la discrétion. Alors quand la discrétion est cultivée, évidemment, les documents, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ils sont plutôt rares. Mais on a une chance d'avoir donc à Lyon une dame donc, qui se dit Madame Dest, et qui pratique cette spécialité, donc, place des Jacobins. Alors, la maison se trouve à place des Jacobins. Cette maison existe toujours, bien sûr. Vous pouvez la voir, les meubles, on en parlera tout à l'heure. Et alors, elle édite une revue sur son sujet, donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver des informations intéressantes. Elle dit qu'elle a une mission. On verra donc, on parlera de cet immeuble en question, voir un petit peu comment il était structuré, et puis on va surtout parler après du culte de la discrétion, pour savoir un petit peu qui est cette dame, cette directrice de cette agence. Alors, Madame Dest, comme je vous dis, elle édite, elle fait éditer en tout cas une revue qui s'appelle, le titre c'est Hymen. Et alors le titre, c'est quelqu'un qui se passe de la pommade, on dirait. Hein. Elle se vante pas mal en disant que trait d'union universelle, organe matrimonial de la maison d'Est. Et c'est quelque chose dont elle va se vanter énormément. Alors cette revue, on la trouve aux archives départementales. Donc c'est assez rare de trouver une revue comme ça. Alors là, elle édite, enfin celle qu'on trouve, on trouve deux années aux archives. Donc la première, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup, donc quand on en trouve, on est bien content. Donc, Hymen, alors son sous-titre, c'est « Trait d'union universelle, organe matrimonial de la maison donc, de Madame Dess », l'édition 1889. Et alors, voilà, la petite publicité, « Maison de mariage la plus importante et la plus estimée de France ». Rien que ça. Donc, c'est quelque chose, c'est une revue qui est tout à fait officielle. Elle a un dépôt légal, donc elle paye officiellement les taxes. Et le dépôt légal nous dit qu'elle édite ça quand même à 4000 exemplaires, ce qui est quand même assez important. Donc il y a deux dépôts en fonction des dates. Alors le prix est de 50 centimes de l'époque, bien sûr. Et puis la deuxième année, alors là, ça monte, c'est-à-dire que c'est toujours le même. Des parties confiées à Madame Dest, donc ça c'est l'édition 90. Et alors là, attention, hein, première maison de mariage du monde, institution seule estimée, honorée de la confiance et de l'approbation du notariat, presque tout entier, elle prend quand même des précautions, qui la qualifie d'œuvre humanitaire. Rien que ça. Alors quand on voit ça, on se dit quand même, il faudrait un peu fouiller hein, et creuser l'affaire. Donc, par contre, on voit quand même que même avec sa publicité bien pompeuse, il y a moins d'exemplaires. Hein. Et là, en mars donc, de la même année, donc, de 90, hein, il n'y a pas eu de parution. La parution va s'arrêter. Alors ça, c'est intriguant quand même, hein, cette affaire. Alors donc, l'avantage, c'est que dans cette revue, elle va nous donner, c'est un fascicule qui est assez important, enfin il y a quand même plusieurs pages, et elle va nous donner des petites explications, comment ça va être organisé, on va avoir pas mal de détails, ce qui est un peu précieux justement pour ce genre d'opération. Alors elle va donner un parrain à sa revue. Évidemment, ça coule un peu de source, hein, lieu du mariage, Himenaios. Ça, c'est un petit peu logique. Et ce qu'elle va nous dire, elle refuse, donc c'est quelqu'un qui ne refuse personne. Donc, dans son petit texte, elle nous dit « Tous nos partis étant parfaitement honorables, les plus humbles comme les plus brillants, nos colonnes sont ouvertes à toute personne honorable, désireuse de se bien marier. » Bon, très bien. Et, bien sûr, petit à petit, le bouche à oreille va fonctionner. Et voilà que les personnes vont faire leurs commentaires en disant, enfin les clients vont faire leurs commentaires et dire que sans Madame Dest, nous ne nous serions jamais rencontrés, nous ne serions jamais connus, nous qui étions pourtant si bien faits l'un pour l'autre. Alors, elle continue en disant « Cette simple conclusion en renferme bien d'autres, quand savent déduire les gens intelligents qui viennent à nous de jour et en jour, plus nombreux, souvent envoyés par d'anciens clients, qui étaient satisfaits. » D'accord. Alors, quelle est la clientèle ? Qui vient la voir ? Puisqu'elle accueille tout le monde. Donc, on va essayer de voir. Donc, cette revue est intéressante quand on la décrypte un petit peu. On voit l'organisation, on voit comment elle agit. Et alors, quand on voit déjà rien que par le choix du parrain, on se dit, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine culture. Alors, quelle est la clientèle ? Alors, la clientèle, elle est assez variée, hein, c'est vrai, mais quand même, on va trouver, en ce qui concerne les femmes féminines, donc en 90, bien voilà, on va trouver quand même surtout des orphelines, beaucoup d'orphelines, alors qu'elles soient millionnaires, nobles, veuves, etc. Et on va retrouver beaucoup de demoiselles. Hein. Donc, les tranches d'âge, donc la plus jeune à 17 ans, et la plus âgée, donc de ses clientes, en a 60. Et alors, entre les deux, bah, c'est entre 20 et 22 ans, hein, les jeunes filles à marier. Alors, on a des demoiselles millionnaires, des nobles, des veuves millionnaires. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'apanage de la clientèle féminine qui vient voir Madame Dest, qui lui demande ses services. Alors, pour ce qui concerne les messieurs, pas les rater ceux-là non plus, alors eux, c'est plus compliqué parce que c'est surtout axé sur la profession, hein, bien sûr. Et alors, pour faire des statistiques compliquées, parce qu'en réalité, il y a souvent un individu par profession. Donc, on va dire, voilà. Alors là, la moyenne d'âge, donc les plus jeunes à 27 ans, le plus âgé 65, et entre les deux, bah, ça tourne entre 30 et 35 ans, ce qui était quasiment la moyenne d'âge des jeunes hommes hein, pour se marier. Alors là, on a le choix. Hein. agent de change, agent diplomatique, architecte, avocat, avoué, agriculteur en Amérique, boucher, caissier, chef de gare, commerçant, commissaire spécial, contrôleur, constructeur, mécanicien, courtier en soierie, employé, entrepreneur de travaux publics, épicier, fabricant, fondeur en métaux, homme de lettres, horticulteur, huissier, ingénieur, juge de paix, magistrat, menuisier, militaire, miroitier, négociant, noblesse, notaire, papier, passementier, pâtissier, confiseur, percepteur, pharmacien, photographe, professeur de dessin, propriétaire, rentier, représentant de commerce, retraité, vétérinaire, vice-consul. Là, il y en a du monde. Hein. Donc, voilà un petit peu la clientèle qu'elle a, du moins qu'elle nous dit avoir. Alors là, Madame d'Est nous dit aussi que elle s'est dotée d'une mission. Et alors, cette mission, pas n'importe quoi, hein. Je vais essayer de vous donner un petit peu de détails. Donc, sa mission, c'est secourir les désespérés. Et même les intermédiaires sont acceptés. Alors, par exemple, voilà ce qu'elle va nous dire dans une partie de sa revue. Je vois, mais ça brille un peu, voilà. À la vérité, je confesse qu'on ne serait prudemment frappé à la première porte venue pour y porter le soin de pareille mission. Nous-mêmes avons hésité pendant plus d'une année avant que d'aborder ce genre d'occupation. Exploité par un si grand nombre de gens inconsidérés et indiscrets, autant qu'indélicats et déloyaux. Alors déjà là, on voit qu'on parle déjà de la discrétion, hein. Dans l'appréhension de nous trouver assimilés jusqu'à ce qu'on ait appris à nous connaître. Ce n'est que cédant au conseil d'amis de plusieurs personnes notables, prenant intérêt à notre situation tant éprouvée, que nous nous sommes décidés à employer tout notre temps, toutes les ressources de notre intelligence et de nos relations à la création et au bon fonctionnement de cette maison que beaucoup applaudissent et les autres maudissent. Évidemment, ça fait obstacle aux courtiers, etc., qu'il y a ou des journaux d'annonce matrimoniale. Lorsque deux jeunes gens nous semblent parfaitement s'harmoniser sous le rapport de l'âge, de l'éducation, du physique, de la fortune et de la situation sociale des familles, nous proposons au jeune homme, la jeune fille, que nous avons en vue pour lui. Et très rarement, nous nous sommes trompés dans nos prévisions. Si l'ensemble des qualités et des avantages que présente la jeune fille plaît au jeune homme, on lui montre sa photographie. Si, n'étant pas de la localité, elle ne court pas le risque d'être reconnue. Discrétion assurée. À moins que la famille ne nous l'ait autorisé à la rentrée. S'ils habitent l'un et l'autre la même ville, ça se complique, hein, on tâchera de le lui faire au moins entrevoir avant de formuler sa proposition, et non sa demande, qu'on saisisse bien ces deux nuances. Donc, on insiste bien sur la discrétion. Alors, bon, quand les personnes viennent la voir, bon, elle est assez exigeante. Il va falloir remplir un CV, une lettre de motivation, on va dire. Donc, évidemment, l'état civil, c'est indispensable, hein, du candidat ou de la candidate. On va lui demander des renseignements sur ses parents, on va savoir si il ou elle est célibataire ou en état de veuvage, s'ils ont des enfants. On va s'interroger également sur les frères et sœurs, le nombre, le nom, le sexe, l'âge, domicile, profession, s'ils sont mariés. Donc c'est vraiment un interrogatoire. Et puis on va s'intéresser à sa manière de vivre, son caractère, ses goûts, sa religion, ses opinions, évidemment, sous-entendu, opinion politique, ça va de soi. Son degré d'instruction, pour les femmes, les talents d'agrément, qui sont broderie, piano, chant, peinture, etc. Et puis, important, la situation sociale. Le chiffre exact de ses appointements, bénéfices ou revenus. Pour les dames, la dot, état de fortune ou chiffre de la dot, bien quand même le physique. Ça, on s'en occupe pas trop au début. Hein. Mais alors, physique, la taille, la santé, le teint, la nuance des yeux, des cheveux et de la barbe pour ces messieurs, et si possible, joindre une photographie. Alors, effectivement, photographie en noir et blanc, hein, à l'époque. Ça donnait grand-chose. Alors, on va demander les souhaits, que souhaitent les clients, on va dire, ce qu'ils veulent, et les espérances. Alors ça, c'est important, les espérances. Est-ce que vous pensez recueillir une succession d'un parent? Ça, c'est important. Et puis pour les messieurs, on se méfie un peu. Tout ce qu'ils vont déclarer, il va falloir qu'ils l'écrivent avec sur une déclaration sur le nom. Alors, la dame d'Est, elle prend bien soin quand même de sa clientèle. Alors, quand les personnes envoient son petit mot pour faire une annonce, puisque dans sa revue, elle nous explique donc comment ça fonctionne, comment elle est organisée, etc. Mais il y a aussi une partie où il y a des annonces. On peut passer une annonce. Alors, elle reçoit une annonce d'un client, elle regarde, mais elle a le coup d'œil. Hein. Elle va, comme elle nous dit, elle va enjoliver un petit peu. Elle va arranger la sauce pour que ça passe mieux, que ce soit plus vendable, on va dire. Et là, on va voir que cette femme, c'est là où on se rend compte que c'est une femme qui est cultivée, qui a l'habitude d'écrire, qui a l'habitude, qui connaît en tout cas les codes de la publication. Et ça, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, un enjolive, quelquefois, hein, avec l'accord des clients, bien entendu. Hein, donc, l'annonce pour la rendre un peu plus alléchante et charmeuse. Alors voilà ce qu'on dit, on peut se contenter de fournir le canevas de l'annonce dont la directrice plus expérimentée se réserve la composition définitive d'un commun accord. Ce libellé devra faire connaître autant que possible l'objet des désirs et des prétentions du sujet. Cela facilite les rapprochements et concourt singulièrement à former les unions assorties partant heureuses. Alors, je vous ai un petit peu extrait des petites annonces qui sont assez rigolotes. Alors, un exemple. Baron, 27 ans, joli cavalier, homme du monde, élégant, fortune, 15 000 de rente, désire épouser jeune fille, apportant 25 000 de rente au minimum. Voilà. Clair et net. Alors là, on voit quand même, vous allez voir que c'est quand même un peu arrangé, parce que tous les messieurs, c'est curieux, mais ils sont tous beaux. Alors, il n'y a pas de photo, mais ils sont tous beaux. Alors, une deuxième petite annonce. Un marquis, capitaine de cavalerie, 32 ans, beau cavalier, ça va sans dire. Bel avenir, épouserait jeune fille ayant les usages du monde et très riche. Et puis un dernier, il y en a des kilos. Hein. Millionnaire baron, de famille presque royale. 30 ans, beau cavalier, sûr. Charmant, caractère, instruction rare. Toutes les carrières diplomatiques lui sont ouvertes. Fortune environ 5 millions. Ah, lui, il annonce sa fortune. Ah, il ne ment pas. Voilà. Alors, ces annonces, quand le client fait pas de demande à ce qu'il soit passé une annonce à la revue, évidemment, ça va. C'est payant. Alors, il y a un abonnement de 30 francs, les 6 lignes, pendant 3 mois. Et 3 francs de plus pour les lignes supplémentaires. La parution d'annonce, soit si elle paraît ou si elle ne paraît pas, on garde les 30 francs. Hein. On ne les rembourse pas. Que nul œil étranger ne verra jamais. Hein. In the pocket. Hein. On ne dit rien. Discrétion, j'insiste sur ce terme. Discrétion. Alors, le prix de l'abonnement tient lieu de tous honoraires pour être mariés par les soins de Madame d'Est, en ce qui concerne les dames. Donc, on va leur réclamer que les 30 francs. Mais ces messieurs qui se vantent de leur carrière, ils acquitteront seuls de leur denier le montant de la commission après l'accomplissement de leur mariage. Alors, ok, le seul truc, c'est qu'on ne connaît pas le montant de la commission. Donc ça doit être fait un accord entre deux portes, hein, à la tête du client peut-être, ou en fonction du patrimoine qu'on envisage, hein, mais on ne sait pas. Donc là, on n'a pas d'infos là-dessus. Discrétion. Alors, la publicité, elle accepte la publicité d'organismes, donc de commerçants, trucs comme ça, qui peuvent proposer, bah écoutez, voilà, on peut faire passer des petits encarts, hein, publicitaires pour la confection d'une corbeille de mariage, installation complète du ménage, toilette féminine, masculine, service et ornement d'une bonne et belle table. Alors, le prix des annonces, alors la ligne fait 25 lettres. Donc, on voit quand même que cette Madame d'Est, elle connaît les trucs, hein, elle a bien les codes, hein, de la publicité, de l'impression. De 1,50 francs dans les pages blanches, 2 francs la page intérieure de couverture, 2,50 francs la page extérieure de couverture. Et puis le mode de paiement. Alors on paye avec des valeurs, donc des titres, hein, des obligations, des actions, enfin du moins au porteur, hein, titre au porteur, des mandats, des timbres de poste. Et il faut verser ça évidemment à une date pour la parution, le délai, hein, le 22 du mois pour le délai d'impression, hein, d'imprimer. Alors, Madame d'Est, où elle reçoit? Elle reçoit chez elle, au 1 place déjà. Enfin, l'agence est 1 place déjà commun. Alors là, je vais vous donner, lire un petit truc que je vous retrouve. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? En plus, donc elle suit sa clientèle dans ses démarches, elle l'accompagne. Elle lui prodigue ses précieux conseils dictés par l'expérience et étudie minutieusement les candidatures. Donc effectivement, on a vu déjà la liste des CV, des lettres de candidature qu'elle épluche soigneusement. Donc elle reçoit au 1 place des Jacobins. Alors cette maison, cet immeuble, c'est un immeuble, vous le connaissez, il existe toujours. Alors là, je vous ai mis chercher une carte postale à peu près de l'époque, hein, de 1900, hein, pour se rendre compte. Donc, cet immeuble donc, se trouve côté nord de la place. Et l'immeuble, il est majestueux, cossu, avec des toits. Le toit est en ardoise et en tuiles. Et on le dit style monumental. Alors, en apparence, comme ça, quand on ne connaît pas, moi-même, je ne connaissais pas, je me suis renseignée auprès d'un architecte. On se dit, c'est un immeuble haussmannien, le style, hein, tout de suite, hein, l'idée. Et en fin de compte, non. Sur Lyon, ce ne sont pas des immeubles haussmanniens. Il y a une petite particularité de technique d'architecture qui ne permet pas de le dire. Mais sur Lyon, ça ressemble quand même. Donc, sur Lyon, on dit que ce sont donc des immeubles de style monumental. C'est le terme qui est employé par les architectes. Alors, cet immeuble, il a été édifié en 1860. Avant, il y avait un autre immeuble qui a été démoli quand ils ont construit la ces fameuses nouvelles rues, rue impériale, etc. Donc, cet immeuble a été construit en 1860. Alors, par les architectes, donc Gignès, un architecte connu de l'époque, qui a fait donc s'est occupé des façades, et un certain Benoît Mouchon qui a fait le tracé des plans. Alors, malheureusement, ces plans, demandez à l'architecte en question et dans l'académie d'architectes, et ils ont cherché, et ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'ils sont peut-être ailleurs? Est-ce qu'ils ont disparu? On ne sait pas. Donc, dommage, on n'a pas les plans. Mais enfin, disons qu'on va voir par contre après pour les façades. Alors, comment est constitué cet immeuble? Alors, au rez-de-chaussée, on a les commerces. Au premier étage, que nous, à Lyon, on appelle entresol. Donc c'est vraiment stockage des marchandises, des bureaux. Hein. On a, nous, ce qu'on appelle deuxième étage, mais en fin de compte, on appelait ça premier étage au-dessus de l'entresol. Hein, on connaît les termes lyonnais. Donc, on va trouver des balcons en pierre de taille, des balustres, des encadrements de fenêtres sculptés. Au troisième étage, des encadrements avec des sculptures un peu plus simples, des barres d'appui en ferronnerie. Ça ne grésille pas trop mon micro, j'ai l'impression que ça va faire un peu trop près. Hein. Le quatrième étage, des balcons individuels en ferronnerie avec des lianes qu'on appelle, alors qu'on compare à des stemmata. Stemmata, c'est des petites lianes qu'on retrouve à Pompéi dans des fresques. Des fresques où le propriétaire d'une des maisons a peint, ou a fait peindre en tout cas, ses ancêtres. Et il les a reliés avec des petites lianes. Donc, c'est quoi, nous, quand on fait de la généalogie, des tableaux généalogiques, le petit trait qui raccorde tout ça, même si ça n'a pas toujours l'allure de liane, ce sont des stemmata. C'est le même principe. Donc, on verra que les balcons, ils ont effectivement des petites lianes comme ça. Et le cinquième étage, mansardées, des lucarnes, à usage donc de comble, et ce qu'on appelle, nous, des chambres de bonne. Et les fenêtres, eh ben, elles ont des persiennes à lions, des jalousies. Hein. Alors, intéressant, j'ai réussi à trouver un livre, c'est sur Gallica. Donc Gallica, c'est le site de la bibliothèque national, et il existe, donc on peut l'avoir par internet, et il existe donc ce livre qui s'appelle l'architecture moderne en France, donc qui est d'un certain Barki, l'architecte Barki qui a dit ça, et on va retrouver tout un tas de maisons, d'immeubles justement dans toute la France, et on trouve justement le 1 place des Jacobins dans ce livre. Alors, c'est intéressant de faire la comparaison avec ce livre donc, de l'époque qui a été fait et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Alors, il n'y a pas grand-chose hein, qui a changé, mais quand même. Donc, on retrouve, si on part du haut, donc les fameuses combles, les chambres de bonne, hein, au dernier étage, qu'on retrouve un petit peu les mêmes les sculptures, on les retrouve bien. On retrouve un peu plus bas donc là le balcon donc on est au deuxième étage ou troisième étage quatrième avec les balcons en ferronnerie et ces fameuses volutes on peut appeler des stemmata. Alors ces balcons ben ils ont été modifiés au cours du temps, avant ils étaient en pierre, hein, on peut voir. Ensuite, quand on descend, eh bien, on retrouve les fenêtres aussi, les sculptures, l'encadrement des fenêtres. Et puis, donc, ces fameux balcons en pierre donc, effectivement, ont été modifiés en 1888. On les a changés, on a fait des balcons en ferronnerie. Et c'est un maître serrurier, M. Borel, qui les a faits. 9 rue Pantièvre, je trouve elle est dans cette rue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aux archives municipales les dessins de ce monsieur et on retrouve bien les motifs de sa ferronnerie. Et puis, on descend encore un peu et là, on va voir l'entresol, donc toujours avec ce qu'on voit aujourd'hui, donc on voit bien, hein, c'est toujours le même décor, hein, ça n'a pas changé, hein, la décoration au-dessus des fenêtres. L'entresol aujourd'hui, donc toujours un peu le même principe de la décoration de pierre. Et puis, la porte cochère. Alors là, la porte cochère, il y a un truc. On voit donc le dessin de base, l'architecte, hein, comme elle était faite. Et voilà la porte cochère aujourd'hui. Alors évidemment, la fenêtre a changé, ce qui s'explique. Mais quand on va au rez-de-chaussée de cet immeuble, à cet emplacement-là, la porte cochère n'existe plus. C'est l'entrée d'un magasin de vêtements pour hommes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc à la porte, elle est vitrée. Alors je ne sais pas, si je me souviens pas si c'est une porte coulissante, c'est possible. En fait, c'est une porte vitrée. Donc la porte en bois, évidemment, a disparu. Sauf, ils ont gardé un linteau. Le linteau qui est au-dessus de la porte. Alors je vous, si vous avez l'occasion d'aller place des Jacobins, vous mettez sur le trottoir, reculez un petit peu, devant la porte d'entrée du magasin, vous levez un peu le nez et vous verrez que le linteau existe toujours. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Donc il est là, juste en dessous de cette fenêtre. Donc au-dessus de la porte d'entrée. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors ça, c'est une photo que m'a fournie Pierre Jourdan, l'architecte qui m'a donné des infos. Donc le voilà. Alors, il est avec une rosace. Voilà, donc, grossi, la rosace, qui est intéressant. Et voilà le linteau originel d'après le dessin du début. Et on voit au milieu, dans la rosace, eh bien, c'est le numéro de l'immeuble 1. Alors, au-dessus, donc ça, le dessin, bon, c'est la pensée de l'architecte, hein, qui a dessiné ce truc. Mais quand ils l'ont fait, dans la rosace, le 1, c'est pas évident, hein, on a une espèce de barre. Donc, je pense, bon, qu'est-ce qu'il y a, on voit que les volutes, elles sont un petit peu plus basses que le dessin initial. Bon, il manque un peu la petite barre diagonale, là, du 1. Mais en fin de compte, c'est bel et bien le 1. La place, voilà, c'est le numéro de l'immeuble. Alors il faut le voir ça, hein. Je vous conseille, si vous avez l'occasion d'aller vous balader à la place des Jacobins, pensez-y, hein, vous mettez là, vous reculez un petit peu, vous levez le nez et vous verrez le linteau avec cette rosace et le 1. Alors comment, voilà, qui habite dans cet immeuble ? Ça, c'est intéressant aussi. Alors en 86, on a 15 ménages de 2 à 8 personnes. Alors c'est chef de famille, épouse, enfants, domestiques, employés, parents âgés. Alors que font ces gens ? Alors on a trouvé des rentiers, des juristes, avocats ou gérants, des professions médicales, médecins, dentistes, pharmaciens, des commerçants, artisans, négociants, photographes, courtiers, bijoutiers. Donc, on voit que l'immeuble est occupé par une clientèle bourgeoise, commerçante, artisan. Il n'y a pas une clientèle, une classe ouvrière, en tout cas, qui habite dans cet immeuble. Et puis, un truc important, la loge de la concierge. Donc, c'est un lieu stratégique. Donc, dans le hall d'entrée, qu'on appelle à Lyon l'allée, hein, gardons nos termes lyonnais. Alors, qui sont ces gens ? Alors, on retrouve, je vous dirai comment. Donc, c'est la loge est occupée donc, par Jean Segaud et sa femme, Pierrette Ferrand, qui sont originaires de Saône-et-Loire. Alors, pensez bien que le travail d'un concierge à l'époque, c'est le gardien d'immeuble, hein, gardien des lieux, donc qui surveille les entrées et sorties des habitants, qu'il connaît, les entrées et sorties surtout des visiteurs, à l'œil. Il récupère aussi le courrier, le facteur, il n'y a pas, disons dans l'immeuble, il n'y a pas de boîte aux lettres individuelle encore à l'époque, il y en a sur les trottoirs, mais boîte aux lettres individuelle, il n'y a pas. Donc, il récupère le courrier, et puis c'est lui qui va distribuer le courrier à chaque habitant, hein, propriétaire ou locataire. Donc, il est bien au courant de tout. Hein. Mais il est discret. Il ne dit rien. Et alors, il voit très bien, sûrement, le petit manège, hein, et surtout les gens qui vont redescendre de cet escalier principal. Alors, je vous ai parlé... Le culte de la discrétion. on en a parlé dès le départ. C'est un petit, une sorte de petit fil conducteur qui nous suit. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors voilà, Madame Dès reçoit au deuxième étage. Donc déjà, on voit où elle habite par rapport à l'immeuble qu'on vient de voir. Hein, la situe. Donc 2h à 7h d'après-midi, évidemment. Et elle donne des explications pour venir la voir. Prendre l'escalier de service à gauche de l'escalier principal, discret, face à la loge du concierge, qui voit tout, et repartir par le grand escalier. Donc on ne se croise pas. Alors Madame Dest est aidée dans sa tâche par une gérante et des secrétaires masculins qui se rendent, ils ne se rendent jamais à domicile. Discrétion. Alors les présentations ont lieu à d'autres heures de la journée hein, que les réceptions, donc ça doit être le matin. Il n'existe qu'une seule porte palière à chaque étage. L'appartement est composé de nombreux salons indépendants, garantissant quoi donc une très grande discrétion. Et c'est Madame Dès qui ouvre en personne le courrier. Elle confectionne les enveloppes pour la réponse sans mentionner l'expéditeur. Discrétion. Alors quand même, c'est un petit peu inquiétant quand même. Enfin, inquiétant, disons, surprenant, cette façon de procéder. Alors on se dit, mais elle est bien discrète cette femme, hein. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? On se dit, ben, dans le fond, comment on pourrait la retrouver? On est au 19e siècle, fin 19e quasiment. Or, à cette époque, existent les recensements. Donc, on va essayer d'aller voir, ou un place des Jacobins, ben, les habitants. Alors, on va la trouver, cette dame, quand même. Bon. Donc, on voit aux archives départementales, c'est en ligne, donc on les trouve facilement, et on liste, on regarde. Bon, ça ne donne pas grand-chose. Au départ, ça ne donne pas grand-chose. Donc, on visionne, on prend un des recensements, donc celui de 86, puisqu'on a vu, enfin, je ne sais pas, peut-être pas repéré, mais dans son dépôt légal, la première année, donc de 89, il était précisé que c'était la troisième édition. Donc, ça laisse supposer qu'elle a commencé en 86. On se dit, peut-être bien qu'en 86, il y a peut-être... Il se trouve qu'en 86, justement, il y a des recensements. Alors, on visionne un peu rapidement, hein, première fois, hein, on liste comme ça, un petit peu en diagonale. Eh bien, pas de chance, il n'y a pas de Madame Dès. Ah, là, c'est embêtant. C'est embêtant. Alors, bon, tant pis, on va refaire une deuxième lecture, parce qu'on disait, t'as peut-être passé quelque chose, hein. Pas bien vu, pas bien regardé, t'as été trop vite. On refait une deuxième lecture, et à la deuxième lecture, on voit très bien quand même une particularité, c'est que tous les habitants répondent au recenseur, hein, donc le nom, le prénom, l'âge, s'ils ont des enfants, le nom, âge des enfants, s'ils ont des domestiques, nom et âge des domestiques, enfin tous les prénoms, éventuellement des observations particulières si nécessaire. Et il se trouve que, quand on reprend, on dit, bon, on habite au deuxième étage, hein, donc on voit bien à peu près les gens qui habitent au deuxième étage dans le recensement, à peu près, ils n'habitent pas dans les combles en tout cas. Et là, on va trouver, à la deuxième lecture, un recensement d'un couple, d'une famille, on va dire, d'un certain monsieur docteur Laure, donc qui est médecin, avec sa femme, dame Laure, qui est rentière, des enfants dont on ne connaît pas les noms, les prénoms, ni les âges, des domestiques qu'on connaît encore moins les noms ni les âges, et alors, une particularité, on nous dit dans les observations que les enfants sont absents, pas, de donner des renseignements. Ah, alors là, ça va moins bien. On n'est pas d'accord, nous, hein, quand on fait des recherches. Il y a un truc. Donc, il faut arriver à retrouver ce truc. Vraiment, ils sont vraiment bien discrets, ces gens-là, hein, quand même. Alors, on se dit, bon, on ne sait pas, est-ce que, éventuellement, cette Madame d'Est, c'est peut-être un pseudonyme, en réalité. Pas son nom exact, sinon on l'aurait trouvé. Mais comment trouver, comment le prouver que c'est là? Donc il faut faire des recherches complémentaires. Alors on va aller à la recherche, une hypothèse d'un pseudonyme. Donc qu'est-ce que cette Madame Laure en question, dont on ne connaît pas son nom de jeune fille, hein, c'est Madame Laure, point. Est-ce que ce ne serait pas elle qui serait la directrice de cette agence et qui serait appelée Madame d'Est, Madame Reine d'Est? C'est la question. Donc on va essayer de revoir un autre recensement, alors beaucoup plus tard, enfin 5 ans encore plus tard, 91, voir s'il y a eu des changements, modifications, des compléments d'informations, etc. Et à la lecture, ah, qu'est-ce que... Oh, miracle! Madame Laure, on voit son nom de jeune fille, Anne Gracie. Et alors en 91, et pourquoi en 91 elle se permet de donner son nom? Parce qu'en 90, la revue est terminée. Il ne publie plus. On a vu qu'en mars 1890, la revue se terminait. Il n'y avait pas de parution. Donc maintenant, on est libre. On peut bien tout dire, il n'y a plus besoin d'être discret. Donc, c'est des suppositions, mais qui intriguent. Alors, on voit donc son mari, ben, toujours médecin. Les deux enfants, ils reviennent, ceux-là. Deux domestiques, qui ont peut-être changé, mais on a les noms et les prénoms. Et là, cette fois, il n'y a pas d'observation. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que en 86, en 86, les enfants étaient âgés de 9 et 7 ans, ils étaient petits. Ils ont peut-être été, je ne sais pas, à la campagne, ça on ne sait pas. Et effectivement, la revue s'était arrêtée courant 1890. Donc en 91, il n'y a plus de raison d'être discrète, puisque visiblement, elle a peut-être arrêté son activité. Alors la question quand même... Madame Laure et Anne Gracie et Madame Reine d'Est, ou l'histoire d'un pseudonyme. Alors un pseudonyme, on sait que le pseudonyme c'est fabriqué avec souvent des éléments de la famille, hein, des noms, recherches, hein, on bricole quelques noms, mais comment le savoir? Alors comment le savoir? Eh bien, il faut aller... Eh bien, tout simplement, essayer de faire une petite généalogie à la recherche des ancêtres de Madame Gracie. Parce que dans le fond, on se dit, elle a peut-être bien piqué simplement le nom d'un ancêtre qu'elle a trituré, etc. Mais il faudrait qu'on le prouve, hein, on sache quand même. Alors voilà, une petite mini-généalogie. Donc, Madame Gracie, ses parents, son père... C'est Joseph Gracie dit Max. Or, Joseph Gracie, c'est l'ancien premier directeur de la revue du Salut Public. Donc, Salut Public, c'est une revue très connue sur Lyon, importante. Donc, ce qui explique un petit peu le fait, d'une part, qu'elle soit cultivée, cette femme, qu'elle n'ait pas de problème pour l'écriture, qu'elle sait pas faire paraître des revues et qu'elle connaît les codes, en tout cas. Sa mère, donc une Thérèse de Limoges. Alors au début, moi, j'ai commencé à chercher du côté Gracie, mais je dis, bon, Gracie, le père, pour faire un pseudonyme, chercher éventuellement si elle a fait un pseudonyme, bon, c'est peut-être pas forcément le choix premier. Hein. Quand là, on dit, bon, on va plutôt essayer de chercher du côté de sa maman. La mère, hein, pour être encore quand même un peu discret. Alors, du côté des deux Limoges, il n'y a pas grand-chose. Par contre, la grand-mère maternelle s'appelle Anne d'Arrest. Alors là, on se dit, ah, mais y aurait-il pas Henri Sourache ? Est-ce que le patronyme d'Arrest aurait pu être utilisé pour construire un pseudonyme ? Bon, ok. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut trouver, il faut trouver aussi le prénom. Elle s'appelle Reine. Alors, éventuellement, qui elle aurait pu prendre, utiliser pour fabriquer le prénom Reine ? Bon, on cherche là dans les. Dans les générations, là, on remonte, il n'y a rien. On remonte encore un peu, chez les femmes, elle a dû prendre forcément un prénom de femme. Hein. Mais on voit quand même dans sa généalogie, c'est intéressant sa généalogie, puisqu'on voit qu'à la sixième génération, elle descend d'un Camille d'Arès qui a été échevin de la ville de Lyon. Donc on remonte 8e, 9e génération. Alors, à la sixième génération, Madame, donc, son Camille d'Arès, donc, il a été quand même recteur de Hôtel-Dieu, donc, et échevin de la ville. Et puis, Camille d'Arès, au passage, il a un frère, Jean-Jacques d'Arès de la Plagne, dont la descendance, ça descend un peu, on trouve un Camille d'Arès de la Chavanne, qui est un célèbre zoologue. Donc on voit quand même qu'elle descend d'une famille cultivée, on va dire. Et puis on va remonter jusqu'à la 12e génération. Et on voit à la 12e génération que Martin d'Arès, qui est laboureur à Ancy, donc Ancy c'est une commune du Rhône, a épousé une Driengras. Driengras. Alors, est-ce que le prénom Drienne aurait aussi pu être utilisé pour former le pseudonyme ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Confection des anagrammes. Le patronyme d'Arrest, est-ce qu'il a pu être utilisé ? Si on supprime le E final et les lettres AR, ça nous donne... Le prénom, Drienne. Si je supprime la lettre D et que j'inverse le YE, je fais Reine. Reine, mais avec l'orthographe ancienne de Reine. Donc, première conclusion, la discrétion a ses mérites, mais à trop forte dose, elle peut être fatale. Ça, extrait de Paul Esther, le chant d'Hérobie, un écrivain américain. Donc voilà, on va arriver à la fin, c'est assez court comme conférence, hein, je ne vous ai pas trop embêté. Alors par contre, pour terminer, j'avais un peu poursuivi dans ma généalogie à l'intention de l'association Lyon 93 spécifiquement. Alors je voulais savoir si cette Madame Laure, en fin de compte, alias Madame d'Est, compte tenu de la généalogie qu'elle a, il aurait été bien étonnant qu'elle n'ait pas eu dans la famille des gens qui pourraient vous intéresser. Alors, effectivement, quand on part de Camille tout en haut, l'échevin, donc il a eu une fille, donc la sœur de Claude d'Arès, là, Poussiron, qui a épousé un certain Cléricault de Jancé, guillotiné en 93, deux enfants, Camille et Jean, fusillés en 93. Et la maman, Marguerite d'Arest, alors elle, donc apparemment, elle a été en prison à la prison Saint-Joseph en 94, et puis une autre fois au Kremlin-Bicêtre, mais je n'ai pas trouvé la nom. Alors je me suis dit peut-être que l'association 93, avec les recherches qu'elle a faites, vont peut-être me trouver quelque chose.
C'est le boulot.
Donc voilà, donc Madame Laure, en fin de compte, alias Madame Dest, alors garantis pas que c'est à 100% vrai, mais quand même, il y a des petites indications qui laissent supposer quand même que ça devait être ça. Hein. Voilà. Donc, mes sources, voilà, j'ai mis. Je ne les ai pas toutes mises, il y en a d'autres, mais c'est surtout avec les archives départementales, différentes et variées, municipales, des bibliothèques, les sociétés savantes, l'AEGB, bien sûr, Généanet aussi, j'ai complété, et puis il y a d'autres revues, j'en ai toute une liste. Voilà. Donc. Voilà, je vous. Je termine là-dessus. Je vous remercie.